Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du journal du meneur de Club JDR. Je suis Guillaume Vendée, évidemment je suis ravi de retrouver le meneur en chef du podcast, c'est Jean-Michel Abrassard. Salut Jean-Michel.
Bonjour tout le monde.
Allez, c'est un petit point d'étape parce qu'on a l'habitude maintenant d'en faire. Puis je crois que ça plaît en plus hein, d'avoir accès un petit peu aux coulisses, de ne pas avoir forcément 100% d'enregistrement de partie, mais aussi de pouvoir savoir comment tu t'organises, qu'est-ce qui se passe derrière l'écran. Oh, je dis peut-être une bêtise, tu n'utilises pas d'écran toi, je crois.
Maintenant, avec le coronavirus, ouais, c'est vrai, on joue derrière écran, toutes nos parties sont virtualisées. Voilà, pour le meilleur et pour le pire, mais on n'a pas trop le choix de toute façon. En espérant, une fois qu'on pourra tous se vacciner, comme je dis, moi je m'occupe de mes parents qui ont plus de 80 ans à la maison, donc je peux pas avoir tous mes copains qui débarquent comme ça.
Alors justement, tu vois, tu lances le sujet, je vais faire juste une minute là-dessus. Le jeu de rôle comme ça par Zoom, mieux, moins bien, différent, qu'est-ce que t'en tires comme enseignement sur le plan pratique?
Ouais, moi, donc je faisais déjà avant Skype, maintenant avec Zoom, parce que bon, Zoom permet d'enregistrer, donc c'est plus facile. Mais je pense que, enfin, l'aspect qui me dérange, en fait, il y a des pour enregistrer, c'est beaucoup plus facile, et le son est meilleur, et ouais, il y a moins d'editing que la partie physique. La partie physique en editing, c'est un travail de bouche, quoi. Tandis qu'ici, ça va beaucoup plus vite, la qualité sonore est bien meilleure. Maintenant, moi, ce qui m'embête, c'est, je pense qu'il y a quand même. Quand on est mes joueurs physiques, quand ils sont à la table de jeu, ils sont beaucoup plus concentrés sur la table de jeu. Ah. On ne prend pas les téléphones portables, etc. Par contre, dès qu'on est sur Zoom, j'ai quand même souvent l'impression qu'ils sont en train de cliquer, aller voir leur page Facebook, etc. Et donc, c'est un petit côté… En tant que meneur de jeu, tu dois être dans le truc parce que tu es actif tout le temps. Tu ne peux pas vraiment commencer à aller sur les réseaux sociaux pendant ce temps-là. Mais... Alors, c'est un petit côté frustrant. En même temps, je comprends. Hein. Et d'ailleurs, les quelques fois où moi j'ai joué sur Internet en tant que joueur, je l'ai fait aussi. Donc, je peux comprendre, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Alors, en live, on a moins tendance à s'éparpiller, on est moins tenté d'aller. Voilà, t'es derrière ton écran, t'as un clic d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Quoi.
C'est vrai. Ouais, c'est sûr. Vous utilisez Roll20 maintenant, la plateforme?
Non, j'utilise Zoom pour enregistrer. Mais Mourad me scie pour utiliser Roll20.
Ce qui trouve ça que c'est vachement bien.
J'ai toujours une garde de retard, hein, même quand j'améliore mon truc, c'est toujours pas encore ce qu'il faudrait.
C'est dur. Hein.
Ce qui est marrant, parce qu'en fait, Mourad ne supporte pas Donjons et Dragons, mais il a rejoint un autre groupe et il fait une autre campagne Donjons et Dragons en même temps. Et
c'est
il est sur Roll20. Ouais, c'est vraiment le monde à l'envers, je ne comprends pas. Mais il est sur Roll20, alors il a pu tester sur cette campagne avec un autre meneur. Et donc, il en dit du bien. Donc voilà, si les gens veulent un feedback. Bon, en fait, honnêtement, je ne doute pas que c'est bien. Hein. Je n'ai jamais douté que c'était bien. Mais...
Je pense que ça demande peut-être quand même plus de travail de préparation parce qu'il faut les cartes, il faut les personnages, il faut les trucs.
Moi je le vois, hein, parce que donc voilà, on va parler de Ravenloft. Je suis sur une page Facebook pour les Dungeon Masters, donc les maîtres du donjon de Ravenloft. Enfin, on les appelle les Dark Powers, les pouvoirs sombres, ce qui était un peu spoil, mais voilà. Oui, les joueurs, n'écoutez pas ce qu'on va raconter.
Si vous voulez pas effectivement être divulgaché, n'écoutez pas ce que là.
Ouais, donc les Dark Powers dans Ravenloft, c'est bon, ouais, je ne vais pas en dire plus. Mais alors on appelle comme ça les meneurs de jeu qui maîtrisent la malédiction de Strahd. C'est une des grosses conversations sur ces groupes. T'as la carte Intel pour Roll20, c'est un truc qui revient sans arrêt, l'échange de cartes, vu que c'est apparemment crucial forcément.
Et du coup, il n'y a pas de base de ressources un peu partagée comme ça où on pourrait trouver tous facilement plutôt que par une page
Mais Roll20 a moi j'utilise pas Roll20, mais Roll20 a, je pense, un kit tout fait pour Ravenloft. C'est seulement pour tout ce qui est extra dont je vais parler, dont on va parler aujourd'hui, donc qui n'est pas dans le livre de base. Mais si tu veux juste faire la campagne telle qu'elle est écrite, tout est prévu. Hein.
D'accord. Comment ça a été perçu justement par les joueurs? C'est quoi leur sentiment là, si jamais tu as la possibilité de retransmettre leurs pensées, leurs sentiments qui auraient pu te partager sur le fait de passer de d'univers tel que l'appel de Cthulhu quand vous avez joué si longtemps, de One Ring et là Donjons et Dragons, alors qui n'est pas le plus typé de Donjons et Dragons, Ravenloft, mais quand même c'est un petit changement en termes d'habitude, non?
Ouais, je sais pas. Je pense que les réactions des joueurs sont très variées. Ma perception, c'est que ça va de très enthousiaste à pas très enthousiaste. De toute façon, il y a eu des discussions. Hein, mais c'est vrai que, en fait, ça dépend quel attachement émotionnel tu as à Donjons & Dragons en tant que joueur. Donc, c'est vrai que par exemple, et ça, c'est enfin, quelque chose à dire, moi par exemple, ce qui me plaît dans Ravenloft, c'est que c'est juste. En fait, ce qui me plaît dans Donjons et Dragons, ce n'est pas tellement le système de règles, même s'il ne me déplaît pas, hein. C'est l'univers justement. Et c'est de faire quelque chose qui soit vraiment fortement ancré dans l'univers de Donjons et Dragons, tel qu'il a été codifié. Donc, les royaumes oubliés, Ravenloft et tous les PNJ célèbres, etc., qui interviennent. En fait, c'est plus l'univers de Donjons et Dragons. En fait, ça ne m'intéresserait pas de jouer une campagne de Donjons et Dragons. Qui serait sur Kickstarter ou Ulule avec un univers original, parce qu'en fait, c'est justement être dans l'univers classique de Donjons et Dragons avec lequel on a grandi qui me plaît. Et en fait, les joueurs, ils ont aussi ça plus ou moins en fonction de leur attachement émotionnel qu'ils ont eu de l'adolescence à Donjons et Dragons. Par exemple, Raphaël était très enthousiaste bah, parce que, comme moi, il a lu les romans Donjons et Dragons. Alain aussi, on n'a pas lu les mêmes parce qu'il y a tellement de romans Donjons et Dragons. Donc, on est très attaché à l'univers finalement et ça nous rappelle, il y a un côté nostalgique. Parce que, bizarrement, en fait, on est dans une génération où on n'a pas tellement joué, nous, à Donjons et Dragons, étonnamment. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais adolescent, j'avais pas de groupe de joueurs. Donc, je m'achetais plein de suppléments pour Donjons et Dragons que je lisais, mais je maîtrisais rien. Et beaucoup de mes copains sont dans le même cas. Je crois que pour plusieurs des joueurs ici, enfin, en tout cas pour moi, pour Raphaël, etc., en fait, c'est notre première campagne Donjons et Dragons, bizarrement.
Et c'est pas rare ce que tu dis. Moi, je me faisais la réflexion justement quand vous êtes lancé là dans Ravenloft. Mais dès que dans Donjons et Dragons, j'en ai fait très tard, sur la fin de ma période jeu de rôle, juste avant de partir en études, sur de la 3.5, si je dis pas de bêtises. Et j'ai pas fait partie de cette génération qui en a fait le début du jeu de rôle, quoi.
Ouais, moi j'ai acheté la mythique boîte rouge, j'avais 12 ans, et puis après j'ai commencé à acheter j'ai acheté le supplément Eau Profonde, j'avais les Royaumes Oubliés, j'avais plein de trucs, mais j'avais pas de groupe de joueurs, donc je lisais, je lisais du Donjons et Dragons à Tire-Larigot, mais on n'en jouait pas. Et en fait, au moment où j'ai commencé à réellement avoir un groupe de joueurs, donc vers 18-19 ans, ah bah à ce moment-là j'étais déjà passé à autre chose. Donc du coup, on n'a pas tellement joué à Donjons et Dragons, c'est marrant.
Alors, la préparation justement de Ravenloft, c'est quoi le matériel que tu as et comment tu t'organises?
Alors donc, il y a évidemment, il faut absolument avoir les trois livres de base, hein, comme d'habitude, le joueur, le manuel des joueurs, le manuel du maître et le
Le
bestiaire.
bestiaire.
Et alors, en plus de ça, il faut avoir Curse of Strahd, donc la malédiction de Strahd, qui est la campagne. Et en plus de ça, j'avais acheté le Taroka, qui est le fameux jeu de cartes qui permet de faire la divination. Enfin, donc, si vous avez écouté la campagne, donc, Madame Eva prédit l'avenir, mais en réalité, évidemment, c'est l'inverse qui se passe, c'est que le tirage de cartes détermine où se situent les différents artefacts qui vont être nécessaires pour battre Strahd, hein, ce qui est un des grands points forts de la campagne, selon moi. Tant qu'on est là-dessus, c'est assez marrant, parce que sur les pages de consacrer, là, je vais vous dire un truc si vous êtes des joueurs, hein, mais dans les pages consacrées à comment être un meneur de jeu à Curse of Strahd, le consensus, c'est qu'il faut tricher avec les cartes. Et choisir les meilleures configurations, ce que je n'ai pas fait. Hein. Là,
Alors, justement, moi, je voudrais être sûr de bien comprendre parce que j'étais pas au fait de ce jeu de tarot, de ce jeu de cartes. Donc, j'ai bien écouté l'épisode où il y avait la divination. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, tu peux tirer au hasard quelque part la divination et le résultat détermine certains aspects de la campagne qui vont suivre. Et tu es en train de me dire en gros qu'il y a des meneurs qui préfèrent tricher, anticiper, construire en gros l'avenir de la campagne et donc du coup faire le tirage en conséquence. J'ai bien compris?
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, revenons
Super.
un peu en arrière à hein, Tracy Hickman, enfin, donc les créateurs de Ravenloft, hein, c'est eux qui ont fait aussi Lance Dragon, etc. Ils avaient, en tant que joueurs, ils étaient une fois tombés dans un donjon, ils étaient dans un donjon, dans Donjons et Dragons, et puis ils sont allés dans un couloir, il y avait un vampire, et ça les a énervés en se disant, mais qu'est-ce que fout ce vampire-là? Et donc, ils se sont dit, il faut trouver une justification à la présence des monstres. C'est comme ça qu'ils ont créé Ravenloft, qui était la première campagne, enfin, un scénario où les monstres avaient une cohérence interne,
C'est la première
écologique.
lutte aux portes monstres-trésors, là.
Oui, exactement. Et alors, aussi, pour augmenter la rejouabilité de la campagne, et je peux vous assurer, hein, quand je lis les pages Facebook, il y a des meneurs, c'est leur quatrième ou cinquième fois qu'ils maîtrisent la campagne, et des groupes de joueurs, ils sont là, les 3/4 de mes joueurs ont déjà joué la campagne, qu'est-ce que je peux faire? C'est assez hallucinant. Donc, il a eu cette idée du tirage de cartes qui existe depuis la première édition, on va chez Madame Eva, et donc quand elle tire les cartes, il y a trois cartes qui déterminent trois artefacts magiques qui sont nécessaires pour battre Strahd. Entre autres, ce qu'on appelle le sabre laser, mais en fait, c'est une épée de lumière. Il y a la guerre qui s'active, l'épée sort. Et puis, il y a un tome qui contient du lore sur Strahd. Et puis, enfin, et alors, ça, c'est les trois artefacts. Et puis, ça détermine aussi l'allié qui sera dans. Alors, donc, ça détermine le comportement des PNJ, puisqu'en fait, il y a un certain nombre d'alliés que les âmes. que les joueurs sont amenés à rencontrer dans la campagne, mais en fait, un seul va accepter de vraiment les aider en fonction du tirage.
D'accord.
Donc, les autres, on doit refuser l'aide. Ça, je vais voir comment on fait. Bon, par exemple, les joueurs ont déjà rencontré certains des alliés et s'en rendent parfois pas compte. Hein, mais bon, ça, c'est parce que les alliés ne vont pas se présenter en disant « Salut, je suis un allié potentiel. »
C'est pas si évident que ça.
Non, surtout que tu es dans Ravenloft, ils vont avoir tendance à cacher « Oui, je suis loyal, bon, et mon rêve, c'est de tuer Strahd. » Ils vont pas se présenter comme ça dans un monde de Ravenloft. Mais c'est vrai que normalement, on est supposé, si, mis à part c'est l'allié qui a été déterminé par la carte, les autres alliés doivent refuser
d'accord,
l'aide. Donc, on va voir, hein, on va tabler sur le fait que mes joueurs n'écoutent pas, mais donc, dans la campagne, là, ils ont déjà entendu parler du mage fou, hein, qui est un magicien super balèze, qui a affronté Strahd, mais qui est devenu... qui a pété les plombs après, c'est pour ça qu'on l'appelle le mage fou. Je ne l'ai peut-être pas encore dit comme ça dans la campagne, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Évidemment, c'est un PJ super célèbre de Donjons & Dragons, mais ça, je ne le spoilerai pas. Mais il faut tirer sa carte pour qu'il aide. Par exemple, mes joueurs n'ont pas tiré sa carte. Alors là, je ne sais pas, est-ce que les joueurs vont se dire, bon, on n'a pas tiré la carte du sorcier, donc on va juste pas essayer de le retrouver, ou est-ce qu'ils vont y aller quand même? Ben, à ce moment-là, il peut donner une petite aide d'appoint, mais disons, celui qui décide de venir aider, vraiment, il est supposé venir avec dans le château Ravenloft et se battre jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi. Donc une aide beaucoup plus active que les autres. Et donc, chaque fois dans la campagne, il est donné des excuses pour lesquelles le PNJ ne va pas aider si on n'a pas tiré la carte.
D'accord, ok, des bonnes justifications, des bonnes excuses. Excellent.
Ouais. Par exemple, pour le mage fou, il a perdu son manuel de sort dans le combat contre Strahd, donc il serait inutile. Voilà. Tandis que d'accord. Si tu as tiré la carte, il va demander au joueur de retrouver le manuel. Et puis, une fois qu'il en fait, c'est comme ça. Ça vous donne une idée de la complexité de la campagne, hein, et des intersections qu'il peut avoir. Ça me donne un peu mal à la tête, mais bon, c'est vraiment une sandbox extrêmement complexe à gérer. C'est pas une campagne pour débutants, ça c'est sûr. Hein.
Comment c'est construit d'ailleurs, juste au passage dans le bouquin de la malédiction de Strahd,
voilà la construction. Ah oui, juste avant de terminer, la dernière carte, c'est la localisation de Strahd, où il se trouve pour l'affrontement final. Mais évidemment, Strahd, il va se pointer un certain nombre, il peut se pointer à plein d'endroits. Donc en fait, Strahd, il y a toute une théorisation de comment Strahd gère la situation en fonction du niveau des joueurs, mais une fois que les joueurs sont au niveau, ils doivent adopter une stratégie de guérilla. C'est un stratège, c'est pas un gars qui va juste attaquer comme ça, comme un bœuf. Il est supposé être extrêmement intelligent. Donc, évidemment, il va se pointer à d'autres moments pour miner. En fait, en tant que meneur du jeu, tu joues Strahd et en fait, il est là. Tu dois faire que Strahd empêche les joueurs de faire la moindre chose qu'ils essayent de faire. Si tu le joues comme une brute, tu joues pas Strahd, en gros. Mais donc, normalement, tu devrais essayer de faire que l'ultime confrontation soit dans la salle qui a été prédéterminée. Bon, mes joueurs ont tiré la salle du trône, ce qui est l'endroit un peu, comme dirait Murat l'a dit à ce moment-là, c'est l'endroit où on s'est pas trouvé Strahd. Mais il y a une bande-annonce du jeu vidéo, on le voit dans le trône, c'est le truc le plus classique. Mais bon, on verra quand on y sera, comment je vais gérer ça. Mais...
Ok.
Mais donc comment la campagne est structurée, alors là, c'est ça qui est vraiment pas évident pour... C'est la campagne la plus libre que j'ai faite jusqu'à présent pour Club Jidéraire.
C'est un gros challenge pour un meneur de jeu, du coup.
Ah, c'est super, parce que tu as tellement d'informations à mémoriser que, en gros, tu dois mémoriser. En fait, tu dois maîtriser 3 fois la campagne pour arriver à la faire convenablement, je crois. C'est ce que disent la plupart des meneurs, mais je le ferai pas 3 fois. Mais c'est vrai que j'essaie de bien me préparer, mais c'est vrai que. Mais donc, en fait, c'est comme Donjons & Dragons classique. Hein. Pathfinder est présenté de la même façon, c'est géographique. Donc, mais l'astuce, c'est qu'en gros, on te met des localisations géographiques, donc la ville de Barovia, la ville de Valaquie, le vignoble, des endroits, un certain nombre d'endroits qu'on a, de toute façon les joueurs n'ont pas encore visité, enfin le moulin ils ont déjà visité, et puis alors ils peuplent ces endroits, donc ils mettent, vous trouverez les PNJ là, qui sont soit gentils, soit méchants, soit neutres. Et puis, ils te mettent les motivations des PNJ, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, Et puis, parfois, ils mettent quand même 1 ou 2 événements qui peuvent se produire où ils te donnent une indication de comment, classiquement, les choses devraient se dérouler. Mais sans que ça n'inclue ce que les joueurs vont faire. Donc, c'est des sortes d'inspiration en disant, normalement, là, Strahd, il devrait plutôt faire ça. Ou normalement, là, les sorcières, elles devraient plutôt faire ça. Mais donc... En gros, c'est pas un scénario, c'est vraiment c'est quand
Un environnement de jeu, quoi.
c'est un
C'est vraiment
environnement de jeu,
sandbox
oui.
par
Et donc
définition.
forcément les joueurs font ce qu'ils veulent et toi tu dois te dire comment est-ce que les PNJ réagissent aux actions des joueurs, ce qui est vraiment. Et alors donc sur les pages Facebook consacrées à Curse of Strahd, c'est ça, hein, les meneurs de jeu discutant entre eux. Bon, les joueurs en font ça. On fait ça, donc qu'est-ce que vous pensez que tel PNJ devrait faire en
Ok.
fonction? Quelle serait sa réaction la plus logique? C'est assez fascinant en fait. J'ai beaucoup de plaisir à lire toutes les. Parce qu'évidemment, certains des joueurs, par exemple, mon groupe de joueurs, ils ont choisi des personnages bons, mais par exemple, dans les personnages, si les joueurs créent des personnages chaotiques mauvais, ils peuvent devenir copains avec Strat, par exemple. Strat les
Oui.
trois. Et puis,
Et ce
Strat les.
qui change fondamentalement le fonctionnement de la
Mais
campagne.
oui, mais rien ne t'interdit de le faire. Donc, voilà quoi. Donc, par exemple, le meneur de jeu, il disait, bah oui, ils sont devenus copains avec Strahd. Strahd, il n'aime pas les sorcières qui habitent dans le moulin, donc il leur demande d'aller buter les sorcières.
Ok.
Enfin, tu vois. Et donc, toute l'intrigue change, quoi. Hein. Bon, évidemment, plus les joueurs font des. Après, moi, mes joueurs le jouent d'une manière quand même plus classique que ça, je pense. En ayant choisi un groupe avec un paladin et un
Oui.
prêtre, normalement, bon, ils sont supposés vouloir tuer Strahd.
Oui,
Mais.
normalement, oui. Non, ce serait l'alignement qui dicterait les actes le plus logique, effectivement.
Ouais.
Du coup, il n'y a pas
Bah,
de.
je vais dire aussi la vérité. Hein. Je pense que le consensus chez les meneurs de jeu, c'est que si tu n'as pas un paladin et un prêtre dans ton groupe, c'est le typique qui est assuré si c'est ta castrate.
D'accord.
Hein. T'as juste même. Déjà comme ça, le typique est relativement assuré. Mais si tu n'as pas un paladin et un prêtre d'un dieu bon dans le groupe, ça vaut
Ouais,
même
ça
pas la peine
conditionne
d'essayer,
bien le
quoi.
sujet, ouais, effectivement. Du coup, il n'y a pas de, dans un fonctionnement de cette campagne typique, il n'y a pas de modification dans le temps, ou est-ce qu'il peut y en avoir? Bon, tu vois, je fais le parallèle avec The One Ring, qui est un tout autre jeu, mais où les actes des joueurs ont des conséquences durables sur la façon dont se déroule l'univers, de changements assez profonds, tu nous l'avais déjà dit. Est-ce que là, dans Ravenloft, tout est plus figé? Parce que déjà, ça me paraît très complexe à gérer. Si en plus les choses changent beaucoup dans le temps, au moment où je joue le jeu, où jouent les joueurs, ça me paraît vraiment particulièrement difficile à mener.
Ouais, en fait, l'action est supposée être assez rapide finalement. Hein. L'aspect temporel de la campagne, c'est au moment où ils arrivent, ils vont rencontrer la fille, Irina, auquel s'intéressent les Strahd. Hein. Et puis, oui, après, ça dépend ce qu'ils font évidemment, mais disons que l'objectif de Strahd. Ouais, enfin, bon, attends, vraiment, hein, si vous voulez jouer à Ravenloft,
Ouais,
n'écoutez pas ça.
vraiment, s'il y a tes joueurs qui écoutent, je vous en supplie,
Mais.
ne massacrez pas votre jeu et
C'est ça,
débranchez le
quoi.
casque.
Parce qu'en fait, elle est la réincarnation de la fille qu'il aimait avant. Hein. C'est le truc le plus. Qui est incroyable, parce que c'est pas dans Dracula, ce truc-là, mais ça a été repris dans Dracula de Coppola. Hein. Ils ont repris à Ravenloft que l'histoire de réincarnation, elle est morte et puis elle se réincarne. Mais le problème, c'est que Strahd, il veut qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est pour ça qu'il ne la vampirise pas. Les joueurs, ils n'ont pas encore capté ça, mais ça c'est marrant. C'est pour ça que Strahd ne veut pas adopter une approche frontale. Il pourrait les tuer tous. C'est la vampiriser, mais c'est pas ce qu'il veut faire. Il veut qu'elle l'aime. Et donc, c'est pour ça qu'il a adopté des. Enfin, dans la campagne, ils disent, il a déjà adapté. Elle se réincarne tous les X années. Enfin, forcément, il a déjà adopté les approches plus frontales des dizaines de fois. Donc, c'est bien que ça fonctionne pas. Mais donc, entre le moment où ils arrivent, et alors évidemment, on peut dire le summum, ça va être le mariage, ce qu'on appelle le mariage. Donc, les joueurs sont invités au. Alors là, je le dis aussi pour les meneurs qui nous écoutent, qui seraient théoriquement les seuls qui devraient nous écouter. Mais donc, sur la DM Guild, qui est l'équivalent pour l'appel de Cthulhu, là où les meneurs de jeu peuvent mettre des scénarios, donc il y a un truc qui s'appelle The Wedding. Et ça, c'est un truc que tous les meneurs de jeu en anglais ont adopté. Hein. Normalement, dans la campagne de base, on dit juste que Strahd leur envoie une lettre et de venir lui dire bonjour. Il envoie une
D'accord.
carrosse à un moment où il estime qu'ils l'ont assez embêté et qu'il est temps qu'il ait un repas avec eux. Mais normalement, il ne donne pas plus d'indications. Mais donc, il y a un meneur de jeu qui a écrit un truc beaucoup plus complexe où il est supposé que Strahd ait capturé Irina et puis il invite les joueurs à son mariage et tous les PNJ majeurs de la campagne. Et alors, c'est une sorte de meurtre en huis clos dans le château. Donc, on va essayer de faire ça. Et donc, entre-temps, bah, à combien de temps passe? Le temps ne peut pas être super, tu vois, extensible. Maintenant. Valaki, la ville où ils sont, par exemple, maintenant, bah là, il y a un compteur temporel qui s'est mis en place au moment où ils arrivent. Ils ont 3 jours avant le festival suivant. Et là, il y a des événements qui doivent se dérouler. En fonction des actions qu'ils vont faire, ça va plus ou moins empêcher les plans de strade ou pas. Vous allez
Tout va
voir.
Bien se passer. Hein,
Tout va bien se passer.
Le message est très clair. Tout va bien se passer.
L'astuce, c'est qu'évidemment, Strad a une ressource, enfin, surtout, ils sont niveau 4, quoi. Donc, il a des capacités. Il a des capacités. Moi, mon job, c'est de. Enfin, Strad doit agir intelligemment en fonction des capacités qu'il a et des pouvoirs qu'il a. Mais comme il a des pouvoirs extrêmement puissants, il n'y a pas beaucoup de choses qu'il ne peut pas faire pour, pour les faire échouer. Mais à ce niveau-là, après, évidemment, quand il monte de niveau, ça change. Ouais, donc voilà, là, il y a un petit indicateur temporel. Et puis après, évidemment, ça peut avoir un impact sur la campagne, dans le sens où le statu quo peut changer dans la ville, quoi, tu vois. Donc, okay. Le bourgmestre est maléfique dans la ville. Hein, les joueurs peuvent décider, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, ils peuvent décider de buter le bourgmestre, je sais pas moi. Et alors, si tu tues le bourgmestre, qui tu mets à la place? Il y a des gens qui se proposent pour remplacer le bourgmestre. Mais est-ce qu'on veut que remplace le bourgmestre? Il y a l'option où les joueurs tuent tout le monde et remplacent le bourgmestre par eux-mêmes. Et donc, c'est vrai que normalement, une fois que tu as joué l'entièreté de la séquence Valaki, le statu quo a changé d'office, quoi. Le bourgmestre, voilà, c'est ça l'intrigue. Et je ne sais pas, moi-même, à ce stade-ci, je ne sais absolument pas quelle va être la fin du statu quo. Mais donc, après, ils doivent aller ailleurs dans la campagne. Bah, après, bon, quand ils reviennent à Valaki, la ville a changé en fonction de leurs actions.
Hein. Oui, d'accord, ok. Du coup, en temps de jeu, ce n'est pas une campagne très longue, du coup, comparé à d'autres campagnes que tu as pu faire, évidemment, ça sera plus court. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se boucle en, je ne sais pas, tu estimes combien de scénarios encore pour boucler?
La plupart des meneurs de jeu, ils estiment que. Si tu fais juste la campagne telle qu'elle est écrite, en jouant une fois par semaine, il te faut 1 an et demi pour la faire.
D'accord, ok, oui, quand même. Ok,
donc,
quand même.
Ouais. Parce qu'évidemment, tu as les phases de donjon aussi, il y a quand même des donjons dedans, donc ça prend à. Ouais, en plus, moi, donc, je ne me limite pas à ce qu'il y a dans le bouquin, parce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées. Entre autres, j'ai déjà mentionné le mariage, donc ça, je pensais qu'il fallait absolument le mentionner. Si les joueurs francophones ne le connaissent pas, ceux qui peuvent un peu déchiffrer l'anglais, il faut aller voir The Wedding sur. Parce que voilà, ça permet de ramener. L'idée, c'est vraiment. Normalement, je l'ai déjà expliqué un peu, mais l'idée, c'est que normalement, les joueurs vont faire un repas avec Strad et il y a juste les joueurs et Strad. Et puis Strad, c'est encore quand ils sont 6, 7e niveau dans ces eaux-là, donc il va juste les menacer ou leur dire.
Essayer de leur faire peur.
Ouais, enfin, il va faire bienvenue chez Comte Dracula. Mais ils peuvent même repartir, ils peuvent même les laisser partir encore. Enfin, voilà, ça dépend des actions des joueurs. Évidemment, si les joueurs l'attaquent, forcément, il ne va pas se laisser tuer. Hein. Il va juste les réduire en charpie. Mais dans le wedding, ça implique vraiment une scène de mariage avec tous les PNJ qui sont encore vivants à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas qui va mourir, évidemment, mais donc tous les PNJ importants de la campagne. Tu fais une sorte de murder party dans le château. Et l'autre truc qui est super important et que je voulais mentionner, et ça, c'est sur Reddit. Mm-hmm. Reddit a un subreddit consacré à Curse of Strahd. Et là, il y a un gars, c'est une dame en fait. Je dis, j'ai un gars par défaut, désolé. Elle s'appelle Mandy Most, c'est son nom de redditeuse, qui a fait un Curse of Strahd Reloaded, un truc comme ça. Et entre autres, ce qu'elle a fait, c'est que donc, dans la campagne telle qu'elle existe maintenant, il y a des éléments qui viennent des éditions antérieures. Donc oui, juste, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses à dire.
Chronologiquement.
Oui, chronologiquement, donc la campagne numéro 1, la première qui a été faite, c'était un scénario de toute façon, et il y avait juste le village de Barrevia et le château. Tu allais au village de Barrevia, puis tu allais au château, et puis c'était tout. Et puis après, dans les éditions ultérieures, ils ont complètement explosé ça, donc ils ont écrit tout le domaine de Barrevia, et même des domaines adjacents qui sont contrôlés par d'autres seigneurs de l'ombre, comme des équivalents de strates qui sont par exemple des ghouls, enfin pas des ghouls, je veux dire des momies ou des liches ou tout ça. Okay. Et alors, donc c'était vraiment le demi-plan où se situe l'action. Il y a toutes des zones géographiques qui sont toutes plus ou moins gothiques horreur. Enfin, elles sont toutes horreur, mais elles sont toutes plus ou moins gothiques horreur. Mais donc, ils avaient quand même fait une carte très étendue de la Barrevia. Mais alors, le problème, c'est que comme je viens de le dire, la campagne est assez longue. Donc, pour la nouvelle campagne, ils l'ont quand même réduite.
D'accord.
Et aussi, ils ont créé beaucoup de lore, tu vois, beaucoup de choses sur qui sont les différents PNJ, etc. Et ils ont de nouveau réduit la campagne. Mais alors, pour les trucs que les gens estiment les plus cool, ils ont écrit soit sur le DM Guild, soit sur le subreddit, ils ont réécrit comment réinjecter ces éléments hyper méga cool des anciennes éditions dans, dans Curse of Strahd. Et donc Mandy Most, elle a fait un subreddit où elle réintroduit ce qu'on a, c'est les trois Tree Fiends, les trois fées, je pense que je traduirais ça. Et donc ça, pour les meneurs de jeu qui nous écoutent, il faut absolument l'inclure. C'est, tous les meneurs de jeu considèrent que c'est génial. Dans la campagne actuelle, les joueurs ils sont allés près du moulin. Il y avait trois monolithes là. Bon, j'ai dit que les monolithes les avaient protégés. Enfin voilà. Et en fait, ils expliquent jamais ces monolithes dans la campagne actuelle. En fait, d'accord. Ça c'est un easter egg pour les éditions précédentes.
Ok, d'accord.
Mais parce qu'en fait, c'est lié à ces trois fées. Donc il y a trois sites avec des monolithes comme ça. Et ces trois fées, elles avaient enchanté la terre de Barovia. En fait, tout ça, c'est une immense explication pour pourquoi on dit de cœur de Strahd qu'il est I am the land, je suis mm-hmm. la terre. I am the land, I'm the ancient. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par je suis la terre, ça mm-hmm. Pourquoi il dit ça? Oui, qu'il contrôle tout. Oui, ça on le sait. Mais en fait, donc l'idée des fées, c'est que ces trois fées qui étaient des sortes de demi-dieux qui étaient là, elles se sont fait défoncer par Strahd et Strahd leur a volé leur pouvoir, et c'est pour ça qu'il est là. Et maintenant, il est la Terre. Mais alors, tu peux faire les trois Fiends qu'elle a réinjecté, mais qui venaient des éditions précédentes, si je suis clair.
Oui,
c'est
oui,
que oui. Tu peux essayer, elles sont toujours vivantes parce qu'elles sont intuables, hein, parce que c'est des dieux, mais elles sont extrêmement affaiblies. Et tu peux essayer de les retrouver et de resanctifier la région. Comme ça, en fait, Strahd perd les pouvoirs qu'il a acquis, donc après, il n'est plus I am the land. Donc, Au lieu de faire la quête dans la campagne réelle de base, l'idée c'est de trouver les artefacts pour gagner en puissance, pour être capable mm-hmm. de battre Strahd. Ici, l'idée c'est enlever à Strahd les pouvoirs qu'il a acquis pour l'affaiblir.
Okay.
Et donc ça, je vais l'inclure aussi. Et ce qui l'intéresse, que ça intéresse, c'est dans un subreddit. Vous cherchez les Three Fiends of Barovia, les trois fées de Barovia, vous trouverez 200 pages de texte sur le sujet.
Et c'est pas un peu dommage d'ailleurs, alors effectivement quand tu me dis 200 pages ça paraît très compliqué de les mettre dans la campagne, mais est-ce que c'est pas un peu dommage d'avoir des nouvelles éditions sur lesquelles il y a eu ces retraits? Je comprends la volonté peut-être, je sais pas, d'alléger l'accessibilité à la campagne, mais c'est pas un regret qu'on peut en faire tout simplement, de retirer des choses comme ça aussi emblématiques, parce qu'à la limite alléger un contenu ça peut se faire, mais des choses aussi emblématiques.
C'est vrai que je me suis posé la question, parce que l'astuce c'est que j'ai pas joué les versions précédentes. Je connaissais la version 1 parce que je l'avais lue, mm-hmm. mais je ne l'ai jamais joué, enfin maîtrisé ni joué. Mm-hmm. Mais je ne connaissais pas les autres éditions, donc tout est nouveau pour moi. Mais c'est vrai qu'en lisant le travail qu'ont fait les différents, parce qu'il n'y a pas que Mandy Mode, mais c'est la plus célèbre, tu te dis que c'est quand même super important, d'au moins en termes de background, de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit il est la Terre.
Ouais.
C'est
structurant, oui.
Ouais, donc c'est un peu dommage, je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant, voilà, la campagne est déjà titanesque, donc tu te dis, je peux comprendre aussi qu'il s'est vu un peu l'alléger.
Ouais, mais je comprends.
C'est vrai que c'est à double tranchant, quoi. Bah, I am the land, bon, ils l'ont gardé, parce que évidemment, c'est iconique, il dit toujours ça, I am the land. Parce qu'il y a eu j'ai pas encore parlé de romans, mais il y a différents romans, Les Vampires dans la Brume, Moi Strahd, et puis Moi Strahd 2, hein, qui sont trois romans qui datent d'il y a 20 ans. Qui détermine un peu le background aussi. Donc tout ça est établi dans les romans, donc que j'ai relu d'ailleurs pour la campagne. Je veux dire, donc si on veut vraiment, il dit je suis la Terre, donc ça veut dire quoi? Mais une interprétation basique que tu peux donner si tu veux pas rentrer dans les histoires que je viens de raconter, celle qui est dans la campagne, c'est il est la Terre, parce qu'en fait il possède toute la Terre et ça veut dire.
C'est ça. Ouais. Moi c'est l'interprétation que j'avais de départ.
Et ça veut dire qu'en fait en pratique, bon même ça c'est pas écrit noir sur blanc, mais enfin le consensus par les meneurs de jeu, c'est il peut entrer dans toutes les maisons sans invitation puisqu'il est la Terre, tu vois.
D'accord.
Les autres vampires doivent être invités, mais lui il a pas besoin d'être invité puisqu'il est la Terre.
Oui, c'est vrai que ça peut justifier, ça peut s'interpréter de manière intelligente sans passer sur le background historique peut-être, effectivement.
Ouais. Je sais pas, toi, t'en as pensé quoi jusqu'à présent de la campagne?
Alors, moi, j'aime bien, je dois confesser. Alors, j'ai des petites scènes qui me restent marquées. Bon, il y a la vendeuse de tartes, moi, qui me fait toujours sourire, paradoxalement. Il y a une scène qui m'a beaucoup marqué, c'était le fils qui était enfermé dans le sous-sol et je sais plus lequel de tes joueurs l'a nourri. J'ai trouvé cette scène assez extraordinaire parce qu'on sentait qu'à tout moment, ça pouvait basculer. Je trouve ça vraiment, vraiment marquant. J'aime bien l'ambiance. Alors, j'ai le sentiment.
Mais surtout que les joueurs s'en rendent pas toujours compte parce qu'enfin, Alain fait du méta. Il y a quelqu'un dans les commentaires sur le blog qui me dit, oh, ce que j'aime pas, c'est qu'Alain fasse du méta. Mais le problème, c'est qu'il fait du méta n'importe comment et il raconte n'importe quoi. Enfin, il fait pas du méta, il sait pas réellement les trucs.
Oui, c'est d'ailleurs Alain qui disait à un moment, bah oui, il pleut forcément, il contrôle tout, il contrôle la météo. J'ai trouvé ça génial, votre petit échange. J'ai trouvé ça vraiment rigolo. Ça fait partie des petites choses qui marquent bien.
Mais moi, ce que j'aime bien avec cette scène, c'est que ça pose évidemment directement l'ambiance, mais que évidemment, ça pose un choix moral très clair. Hein. Les joueurs ont fait un choix moral, mais ils n'explicitent jamais vraiment. Enfin, les décisions sont prises. Mais en fait, finalement, il y a un choix moral. Je veux dire, le choix moral, c'est est-ce que tu tues le vampire ou pas. Est-ce qu'il y a des options pour le tuer. Tu pourrais mettre le feu au bâtiment, il ne peut pas sortir.
Oui.
Tu peux le
laisser.
Avec
sortir. En plus le fait qu'il soit raté et qu'il ait fait son échec critique, là, je crois, sur la couverture, c'était assez.
Ah ouais, magique. Ça va retourner la porte. Tu peux le laisser partir aussi. Enfin, en fait, ils ont fait le choix de pas faire de choix. Ils ont juste laissé le vampire dans la cave. Mais bon, ça me dérange pas. C'est pas un mauvais choix, au contraire. Mais c'est vrai que. Mais j'étais quand même étonné qu'ils fassent le choix de ne pas intervenir. Probablement parce qu'ils sont assez prudents. C'est vrai qu'ils se rendent bien compte que tout est trop dangereux pour eux, et donc il la joue extrêmement prudent. Ils essaient de ne pas
confronter. Un paladin prudent qui est dans ton groupe.
Ouais, il n'y a pas un paladin qui se dit.
Modéré.
il faut lui régler son compte à ce vampire. Parce que, évidemment, normalement, enfin, pas normalement, il n'y a pas de normal. Je veux dire, les joueurs le jouent comme ils le veulent, mais c'est vrai que si tu tues le vampire, j'ai envoyé des signaux, ils le sentent aussi, mais c'est vrai que le père se suicide en se pendant dans l'église, donc normalement.
Oui, on sent que son équilibre, bah, pour le garder comme ça, alors qu'il est dans cette situation-là, on imagine qu'il est attaché.
L'image classique, c'est les joueurs qui partent de l'église et puis ils entendent les cloches qui sonnent. Et en fait, c'est juste le père qui s'est pendu. Quoi, tu vois.
Très bien.
Même les joueurs, ils ont été. Ouais. Bah, peut-être qu'ils vont y retourner.
Oui, oui.
Ils se disent peut-être tout le temps ça. On fera ça plus tard. On s'en occupera plus tard.
ça peut être lourd de conséquences, donc on va voir plus tard, on va prendre le temps d'y réfléchir, ce qui est assez sage finalement. Mais c'est vrai que j'ai eu le sentiment, et c'est peut-être une interprétation de ma part, mais que les joueurs n'avaient pas l'enthousiasme de certaines parties de The One Ring ou certaines participations. Alors, est-ce que c'est l'univers qui matche peut-être moins avec certains joueurs? Est-ce que c'est le fait de jouer à distance? Est-ce que c'est le fait d'installer quelque chose de nouveau qui est toujours assez difficile, hein? D'ailleurs, on pourrait revenir là-dessus pour les meneurs de jeu, c'est-à-dire quand tu as joué longtemps dans un univers donné et que tu es dans un autre univers, même si allez, ça reste du jeu de rôle, mais ça peut être perturbant parfois pour des joueurs.
Ouais, je sais pas, c'est vrai que j'ai parfois eu un peu ce genre de sensation. Enfin, comme je l'ai dit, Raphaël était très enthousiaste. Fabrice et Alain, oui, ils étaient plutôt nostalgiques. Mourad était plutôt contre, alors qu'il me dit qu'il fait une autre campagne de jeu de dragon. J'ai pas compris, mais
c'est déroutant. Mais... Mourad, faut que tu
t'expliques. En plus, ce qui est marrant, c'est que, ouais, enfin voilà, donc Mourad, évidemment, ça, je comprends. Il dit en fait, quand il y a du combat, c'est chiant, en gros, c'est sa perception. Mmh. Parce que dans Donjons et Dragons, ça prend du temps. Mais bon, moi, les combats, en fait, souvent, j'en fais peu finalement. Mmh. J'élimine tous les combats, ce que j'appelle tous les combats non essentiels, et je ne garde que les combats essentiels, et du coup, à l'intrigue. Et du coup, finalement, on a fait plein de parties où il n'y avait pas de combat.
Oui, c'est vrai, c'est sûr. Oui, ça, et tu confirmes que ce n'est pas l'approche de Ravenloft au départ dans la campagne. Il pourrait y avoir du combat à tiens-larigot presque tout le temps ou...
Mais je fais la même chose en Pathfinder. Hein. Ouais. J'enlève plein de combats.
Oui, tu l'avais dit d'ailleurs.
Je crois que ça dépend du style de meneur de jeu. Hein. Mm. Mais moi, quand je vois une séquence de donjon, la première chose que je vois, c'est combien de combats il y a.
Oui.
J'enlève tous les combats non essentiels, j'appelle ça. Donc, en fait, je ne garde que les combats qui font partie intégrante de l'intrigue. Mais, et alors, s'il y a des solutions non violentes au combat, je les pousse à mort.
Tu les mets bien en évidence. Mais c'est vrai que c'est rigolo, d'ailleurs, quand on y réfléchit, ce rapport au combat dans les jeux de rôle qui est aussi structurant. Je pense que l'histoire des jeux de rôle qui est arrivée avec cette présence des figurines et des décors est peut-être une explication, mais je reste toujours marqué de la présence des combats dans les jeux de rôle. Alors, je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs qui sont très adeptes de jeux de rôle modernes et moins traditionnels que ceux qu'on aborde finalement dans Club JDR, qui diraient, bah oui, mais c'est normal, vous cantonnez à un style de jeu de rôle très, très, qui n'a pas évolué, c'est une explication. Mais en même temps, je suis interpellé par la place des combats dans les jeux de rôle. Et je t'avais dit dans le dernier journal du meneur qu'on avait fait ensemble que je trouvais très intelligente la proposition de la dernière édition de Vampire de limiter un combat à 3 tours. Je trouvais ça très cool. Parce que ça laisse la place du combat qui peut être galvanisant pour certains, j'imagine, assez, qui sert de point de repère peut-être dans les intrigues. Et en même temps, on peut lui donner trop de place, quoi. Je trouvais ça intelligent.
Oui, mais enfin, après, il y a quand même les questions stratégiques. Et je trouve que dans Ravenloft, ça se sent particulièrement bien parce que les adversaires sont tellement puissants, surtout si on ne garde que les combats stratégiques. C'est tout des boss, quoi. En gros, c'est dans un jeu vidéo, je ne garde que les boss, moi. Donc, si
C'est
tu
vrai,
gardes
c'est
que les
ça.
boss, normalement, en fait, il faut des combats pour monter le niveau si tu comptes les XP. Mais comme moi, je ne fais pas ce système-là, je fais le milestone. Donc, j'accorde automatiquement des niveaux quand ils passent des objectifs. Donc, par exemple, là, maintenant, ils sont à Valaki. Bah, quand on aura fini la séquence Valaki avec le festival, enfin, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais. Bah, ils passent automatiquement de niveau. Mais
OK.
si, et s'ils vont faire ailleurs, bah, ils vont arriver dans une autre zone. Et s'ils terminent cette autre zone, bah, c'est quand ils auront fini cette autre zone qu'ils passeront de niveau. Mais alors, donc, je m'en fous, en fait, moi, des combats, parce que je ne comptabilise pas les points par combat. Je comptabilise les étapes. Mais c'est vrai qu'alors, si tu gardes que les boss, voilà, l'aspect stratégique. Parce que bon, ils se disent, bah oui, quand on sera niveau 12, on reviendra. Ouais, mais en fait, la campagne, elle est niveau 1 à 10. Je veux dire, t'es jamais supposé de niveau 12, tu vois. Les boss doivent toujours être des boss, donc c'est comment est-ce que tu les affrontes, comment t'abordes la situation. D'ailleurs, avec les sorcières, j'étais étonné parce que finalement, c'était un moment où ils auraient pu faire du roleplay, mais voilà, Alain, alors c'est le truc, si tu les accuses frontalement d'être des sorcières, elles vont pas commencer à faire du roleplay, mais.
Ouais.
Pas adopter une approche non conflictuelle à ce moment-là. Hein. Bon, moi, s'ils veulent le faire conflictuel, voilà quoi. Ouais, donc je trouve que ici, vraiment, le côté stratégique, comment tu abordes chacun des boss est super important. Surtout que les boss, ils sont pas figés, hein. Ils n'oublient pas. C'est pas un jeu vidéo, le boss t'attend patiemment que tu reviennes à l'endroit où t'es. Par
Donc
exemple,
tu
dans la.
franchis pas le seuil de son
Ouais.
entrée, il se déclenche.
Dans la toute dernière partie, Mourad a eu un cauchemar qui est généré par une des hags où il perd des points de vie de manière définitive jusqu'à ce qu'elles soient. Ils peuvent être restaurés par magie s'ils font les bons trucs. Et ça, c'est super dur. Hein. Ils n'ont rien pour faire contre ça. Hein. C'est parce qu'ils n'ont pas battu les hags. Ils les ont confrontés frontalement et puis c'est pas à niveau 4 que t'as des genres de sorts ou quoi. Alors ils me disent, ouais, mais je vais dormir. On va ressanctifier l'église et je vais dormir. Donc tu vas passer quoi? Tu vas rester à l'église tout le temps, mec. Donc tu vois, en fait là, en gros, avec les sorcières, ils l'ont mal joué. Tu vois, mais ça a des conséquences directes, hein, parce que les sorcières, elles vont continuer à siphonner leurs points de vie. Hein, elles s'en foutent. Hein. Et c'est vrai pour tous les méchants. Hein. Les méchants, en fait, c'est ça qui est fabuleux dans Ravenloft, c'est que c'est des méchants qui sont des vrais personnages et qui ils agissent. La consigne qu'on donne aux meneurs de jeu, c'est faites les agir intelligemment. Ils vont pas attendre bêtement qu'on
C'est
les
pas
tue.
des, ouais, des ennemis idiots qui se retrouvent dans le couloir, justement.
Ouais, c'est ça. Donc,
Top.
ouais, moi je suis très entou... Enfin bon, je sais pas trop, on parlait des joueurs, le manque d'enthousiasme des joueurs. Enfin bon, on exagère peut-être en disant ça,
Non, oui, en
mais
plus. Non, puis je dis ça, c'est un sentiment plus que quelque chose d'hyper factuel, parce qu'au contraire, quand tu écoutes les parties, au contraire, ça paraît extrêmement agréable à vivre. Et je crois que toi, tu prends particulièrement plaisir quand même, pour le coup, hein.
Ouais, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis vraiment fan. Donc, j'essaye en fait de communiquer mon enthousiasme. Mais je trouve que c'est une campagne fabuleuse. Ouais, de toute façon, tous les meneurs de jeu qui la maîtrisent le disent. Hein. Parce qu'on m'a souvent reproché de faire des choses très linéaires. Bon, évidemment, les montagnes hallucinées,
Alors
c'était
oui,
très linéaire.
effectivement.
Assaut sur les montagnes hallucinées, c'était un peu moins linéaire, mais c'était surtout dans les choix. Il y avait beaucoup de choix que le meneur de jeu pouvait faire. Mais bon, pour les joueurs, finalement, c'est toujours. Voilà, tu traverses la banquise, il y a un objectif clair.
The One Ring est
Voilà.
pas vraiment linéaire pour le coup.
Mais le One Ring, il est linéaire dans le sens où chaque scénario par lui-même est linéaire, si tu veux. Mais évidemment, les actions des joueurs s'accumulent, etc. Et surtout, ce qu'ils font dans les phases de fellowship commence à avoir
Oui,
de
c'est
l'impact sur
précieux ça.
l'environnement. Mais chaque scénario en lui-même est linéaire, mais ça prend place dans une géographie qui, elle, a évolué en fonction des actions des personnages, tu vois ce que je veux dire.
C'est plus l'environnement global qui n'est pas linéaire, mais chaque épisode finalement est plus construit,
Tandis
quoi.
qu'ici, vraiment, les joueurs, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et ça, moi, je suis assez fan. Hein, si j'étais. Parce
C'est vrai.
que, enfin, voilà, il y a plein de groupes, ils vont même pas au moulin, ils passent directement à Valaki. Ils doivent amener la fille à Valaki, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêteraient au moulin? Donc, ils skippent complètement le moulin. Bah, après, il y a des choses bon, qui peuvent te motiver à retourner au moulin. Si tu as tiré une carte du moulin, si tu apprends qu'il y a des enfants qui ont disparu qui sont au moulin et que tu es un peu un loyal bon. Mais. Et si t'es chaotique mauvais, tu t'en fous qu'il y a des enfants qui se font bouffer par des sorcières dans un moulin du côté
Oui,
là-bas, quoi.
effectivement.
Ça
C'est vrai que c'est quand même un autre jeu.
t'aide pas à tuer Strahd, je veux dire. Donc, parce que si t'es chaotique mauvais, ton objectif, ça peut être de devenir le nouveau Strahd. Hein.
Oui,
Tu vois?
effectivement, de supplanter le grand méchant. Oui,
Donc,
ça se tient.
Moi,
Tom,
moi,
alors du coup, c'est quoi la suite alors? Alors, pas la suite des scénarios forcément, mais ton organisation pour les prochains épisodes, ça va être évidemment la suite de la campagne. Est-ce que tu as d'autres choses ou est-ce que pour l'instant tu te concentres à 100% là-dessus?
Moi, je pense qu'il faut, pour le moment, avec mes joueurs physiques, qui sont plus physiques, mais avec mon groupe de
Oui.
base, c'est vrai qu'on va faire que du Ravenloft parce que vu que ça part dans tous les sens, si on coupe par d'autres choses, ils vont oublier tous les
Ouais.
détails.
Ouais, je comprends.
Et là, ça deviendrait très vite. Parce que là, en fait, jusqu'à présent, ça a été encore assez, entre guillemets, linéaire. Parce qu'évidemment, bon, tu vas, forcément, les joueurs vont toujours aller de Barovia à Valaki. Bon, le moulin est sur la route. T'es pas obligé d'y aller, mais il est sur la route. Voilà. Mais c'est un peu la blague qu'il soit sur la route, parce que bon, voilà, on met des boss de très haut niveau pour dire aux joueurs, ouais, faites gaffe où vous allez, quoi, c'est tout. Mais une fois que tu es à Valaki, là, les deux dernières parties, on voit que tout d'un coup, ils reçoivent plein de quêtes. Hein. Et en fait, là, vraiment, ça explose, ils peuvent aller partout où ils veulent. Et pour moi, c'est super dur. C'est super dur à gérer. Parce que enfin, je peux essayer de, je dois un peu guesstimer ce qu'ils vont probablement faire. Mais en gros, j'en sais rien. Donc.
C'est pour ça que tu résumes les side quests au début, enfin toutes les quêtes qui ont été activées au début des
Ouais, je fais
scénarios,
une,
ça
c'est vrai
permet
que
de
je fais une
reformater
liste
le. C'est bien d'ailleurs, je
de
trouve.
ce type de jeu vidéo
Ouais. Ah oui, ça fait très World of Warcraft. Tu sais, quand tu as tes points d'exclamation jaunes et que tu dois les traiter un par un, hein, c'est très bon.
Ouais, parce que bon, évidemment, ils sont pas obligés de les faire, hein. C'est comme dans un jeu vidéo, c'est pas obligatoire, mais au moins qu'ils savent en gros ce qu'ils ont activé et que voilà, si ça les intéresse, ils peuvent le suivre. C'est vrai que j'ai commencé à faire ça un peu instinctivement, mais justement par un peu un mémo que je fais en début de partie, mais je trouve ça pas mal. Mais c'est vrai que, ouais, non, ouais, enfin, en plus, oui, donc Curse of Strahd, c'est vraiment une campagne qu'on peut échouer. Hein, enfin, autrement qu'un Total Party Kill, je veux dire, tu peux vraiment. Là, par exemple, voilà, en fait, il y a des choses que tu peux mal jouer, vraiment. Enfin, les sorcières, ils l'ont mal joué.
D'accord.
Ils auraient pu aborder la chose beaucoup plus subtilement que ce qu'ils ont fait, tu vois.
Eh, c'est marrant parce qu'il y a peut-être aussi le réflexe de Donjons et Dragons, quoi. Quand tu te dis c'est du Donjons et Dragons, bon, à la base, tu peux bourriner, quoi. Tu peux ne pas forcément y aller subtilement. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même Ravenloft que je découvre avec tes scénarios et en discutant avec toi. J'ai l'impression que c'est vraiment une exception et que c'est tout un piège. C'est-à-dire que si jamais tu joues du Donjons et Dragons dans Ravenloft, tu passes à côté de ce que c'est que Ravenloft. Et donc, effectivement, faut peut-être pas y aller comme des bourrins systématiquement, quoi.
Ouais, dans le petit prélude, là, la maison hantée,
Ouais.
la maison maudite, et forcément, quand tu dois, il t'invite à sacrifier un des joueurs. Là, si tu ne le sacrifies pas, donc là, on te demande déjà de prendre position éthiquement, hein, c'est sympa. Parce que si tu es chaotique mauvais, tu t'en fous, hein, tu poignardes ton copain. Mais si tu poignardes ton copain, Strahd a directement conscience qu'il y a des chaotiques mauvais qui viennent d'arriver, et puis il est tout content. Enfin, voilà.
Ouais, il est chaud,
Il
quoi.
est chaud,
Il est chaud.
la partie a commencé. Mais de toute façon, la partie a toujours commencé. Mais c'est vrai ouais. Donc à ce moment-là, il y a une sorte de montagne de détritus qui se met en mouvement. Mais ça, c'est un monstre super balèze. Hein. Il n'y a aucune chance que des niveaux 2 puissent se le faire. Et donc en fait, là, il est vraiment là pour ça. Hein. Si les joueurs ont l'idée de se dire on va se le faire, ils sont morts d'office. Hein. C'est d'office à ce moment-là. Et donc ce truc-là est là pour enseigner aux joueurs. Non, vous devez pas. Il y a des moments où courir est la bonne solution. Hein. C'est tout ce que vous pouvez faire. Mais mon groupe, là, ils n'ont pas eu de problème. Hein. Ils ont pensé à courir assez vite. Hein. Ils ont quand même une idée de ce que c'est Ravenloft. Mais bon, voilà, les sorcières, ils ont sous-estimé la difficulté, je pense. Hein. Dès qu'ils sont montés un peu de niveau, ils sont là, ouais, c'est bon. Mais maintenant, ils ont appris leur leçon directement. Voilà, quoi. Mais ouais, non, c'est très différent. Tu ne peux pas avoir cette attitude du tout Et donc, oui, tu peux rater la campagne, ce qui est assez sympa, donc en jouant mal. Entre autres, voilà, si tu vas confronter Strahd alors que tu n'as pas les artefacts, bon, une chance. Enfin, là, mes joueurs ne sont pas aussi bêtes. Mais sinon, il y a des moyens, d'autres moyens d'affaiblir. Bon, j'ai parlé des trois fées, là, ça, c'est un moyen d'affaiblir Strahd. Mais même dans le livre de base, il y a un autre moyen d'affaiblir Strahd. Et donc, c'est toutes des actions que tu dois poser. Mais donc, en fait, si tu n'es pas proactif, ouais, vraiment motivé à explorer les donjons, à aller voir ce qui s'y trouve pour faire les choses. Et que tu vas chez Strahd, bah voilà.
Ouais.
Normalement, bon, juste pour les meneurs de jeu, normalement, la campagne, c'est jusqu'à niveau 10. Donc, le mariage devrait être vers niveau 9.
D'accord.
Et Strahd devrait être un adversaire. Normalement, si en frontal à niveau 9-10, il devrait se le faire sans problème, Strad. Mais il doit la jouer guérilla. Et ses pouvoirs, ses transformations en brume et traversée de mur. Donc il traverse un mur, il slash le gars, il traverse le mur,
Très bien.
il régénère ses points de vie par round, il régénère, il revient, il slash, jusqu'à ce que le mort s'en suive, quoi.
Oui, ça peut être très endurant.
Maintenant, il y a des versions, on verra. Parce que il y a version Strat CR27, donc difficulté 27. Donc là, il est monstrueux.
Ouais.
Et si tu veux faire monter tes joueurs jusqu'à niveau 15. Et puis, il y a Mythic Strat qui est niveau 20.
Ça, c'est le mode difficile quand tu lances le jeu vidéo au départ, quoi. C'est le mode
Il y a des grands débats sur quelle version on veut utiliser de Strad. Est-ce qu'on utilise la version puriste qui est niveau 12, je crois, un truc comme ça? Mais alors, il faut vraiment la faire guérilla. Ou est-ce que tu prends la version mythique et
Ouais,
tu fais
bon,
vraiment la
faudrait.
bataille?
C'est vraiment épique à ce stade. Hein. Non.
Je vais vous donner quand même un truc. Hein. Je vais vous dire, hein, pour vous embêter, mais Strad, il est déjà apparu dans la campagne. Mais les joueurs ne l'ont pas deviné. Hein.
Réécoutez.
Ah
Alors, on l'a entendu déjà, les bottes dans la brume
ouais, c'était
qui
même
m'a
pas à ça que je
fait.
pensais.
D'accord. Bon, on va réécouter les épisodes. Et là, pour le coup, ce ne sera pas un divulgachage et un spoil de l'épisode au point qu'il va nous dire.
Ah ouais, non,
Il
je
faut
vous
que tu
dirai
gardes
pas.
ça.
Ouais, je regarde. En
Très
fait,
bon.
ouais, une fois que les joueurs arrivent à Valaki, Strat commence à jouer activement contre eux. Donc, il est déjà là dans l'environnement en train de contrer leurs mouvements.
D'accord.
Donc, il se préoccupe déjà de ce qu'ils font, même si pour l'instant, ils le font rire, quoi.
On est d'accord, il n'y a pas de signe qui nous permettrait, là, si on ne connaît pas la campagne, de deviner vraiment.
Oh,
Ah.
c'est à vous de voir. Maintenant, si vous avez lu les romans Aistrad et que vous êtes familier du lore, vous savez déjà de qui je parle, hein, parce que
D'accord.
forcément, c'est mentionné dans les romans, etc. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, non, il est déjà proactif, c'est ça qui est marrant. Il est déjà en train d'activement. Et donc, pour donner une idée, les stratégies qu'il a, c'est qu'il peut voir à distance. Hein, donc, s'il prend des cheveux de quelqu'un, il peut voir ce qui leurs actions. Donc, en gros, il a déjà commencé à surveiller les actions des joueurs. Et donc, mon job, c'est de les embêter.
Ça a l'air assez jubilatoire quand même, hein, à organiser pour un meneur de jeu, ça a l'air
Mais je crois que
assez
souvent,
sympa.
on a un peu des méchants qui sont un peu bêtes dans les jeux, je trouve. Tandis que Strad,
Oui.
la campagne te demande d'avoir un méchant qui est intelligent. Donc,
Oui.
si les joueurs ne font pas gaffe.
Oui. Et c'est probablement un challenge, et c'est aussi la raison pour laquelle c'est peut-être pas une campagne à conseiller pour un meneur trop débutant, parce que
Non, mais
je
ça, je
pense
la
que ce
déconseille
serait.
activement aux meneurs de jeu non débutants. Ils vont juste massacrer le truc.
Ouais,
Ou
c'est
alors, il faut
dommage.
aussi m'écouter, évidemment. Ça leur peut leur donner une idée de comment gérer le bazar.
Oui, mais encore, compte tenu de ce que tu nous décris, où il y a des variations possibles dans la campagne, c'est pas suffisant. Ça peut aider, mais c'est sans doute pas
C'est
suffisant. Un
clair.
peu d'expérience, c'est peut-être pas trop.
Il suffit que les actions des joueurs s'éloignent trop de ce que font les miens. Et puis voilà, t'es en roue libre. De
Ouais.
m'avoir écouté, t'aides plus du tout. Hein.
Ouais. Ok.
Voilà,
Eh ben écoute,
super.
c'est captivant, on n'a qu'une hâte, c'est d'écouter la suite, évidemment. Vous jouez à quel rythme maintenant?
Toutes les 2, 3 semaines,
Toutes
oui,
les 2, 3 semaines, super. Donc ça
avant
devrait
ça.
pas tarder pour avoir le prochain épisode. Super. Merci beaucoup Jean-Michel pour avoir fait le
Ouais.
tour des coulisses du journal du meneur de
Super.
Ravenloft à écouter
Voilà.
sur Podcast FJDR. Merci beaucoup.
Ciao les aux éditeurs, bye bye.
Allez, ciao à toutes et à tous. Ciao.